Bonsoir, bienvenue aux interviews d'Afriveil. Nous recevons ce soir M. Ibrahim Kourouma de l'agence RCG West Africa.
C'est ça.
Merci de nous recevoir.
Merci.
Pour commencer, pouvez-vous nous présenter à nos lecteurs et auditeurs?
D'accord. Donc, merci et bienvenue à RCG. RCG West Africa est une agence conseil en communication. Voilà, nous sommes très orientés communication institutionnelle. C'est un choix que nous avons fait dès le départ. Voilà, donc pouvoir accompagner des organisations, des institutions, des personnalités publiques, politiques, culturelles, sportives, etc. dans leur communication. D'aucuns parleraient de personal branding, d'autres parleraient de communication corporate. Mais c'est le choix que nous avons fait. Et nous sommes là depuis le 27 février 2015. Voilà, création officielle, mais c'est un projet que nous portons depuis 2008. Et nous continuons notre petit bonhomme de chemin en nous étendant sur toute l'Afrique de l'Ouest. Voilà.
D'accord, très bien. Comment êtes-vous tombé dans l'entrepreneuriat?
C'est en accompagnant des entrepreneurs. Voilà, je pense, après avoir commencé ma carrière dans le public, particulièrement au niveau de la télévision nationale, j'ai rejoint un groupe d'amis entrepreneurs qui avait des années auparavant lancé une agence de communication. Voilà, c'était des amis comme moi, nous avions le même âge, les mêmes réalités, etc. À la différence qu'eux avaient pris le risque de créer une entreprise. Et je travaillais avec eux et nous avons ensemble relevé un certain nombre de challenges. Donc à leur côté, j'ai vu comment une entreprise pouvait démarrer, comment une entreprise pouvait être gérée, et ensuite comment on pouvait progresser. Après, j'ai eu la chance de côtoyer un certain nombre de personnalités qui elles-mêmes étaient des entrepreneurs. Et à leur côté, j'ai appris aussi. Voilà, donc l'ensemble de ces rencontres-là a suscité en moi le désir d'apporter un type de réponse particulière. Voilà, un ensemble de problèmes que je constatais. Il n'arrivait pas forcément aux entreprises dans lesquelles je travaillais de répondre ou d'apporter des réponses satisfaisantes à ces problèmes-là, souvent pour des raisons de choix. Voilà, elles avaient choisi d'aller dans un certain axe et de rester alors dans cela. Et parfois, j'avais une opinion divergente, parfois, je voyais d'autres choses. Et il arrivait parfois aussi des incompréhensions. Donc, ce qui m'a poussé à suivre ma voie, à prendre le risque de matérialiser des rêves, des idées que j'avais dans le cœur. Et j'ai eu la chance d'être accompagné et soutenu par un ensemble de personnes au départ. Voilà. Ce qui a fait que cette volonté de devenir entrepreneur s'est matérialisée par la suite.
D'accord. Donc vous avez expliqué que RCG West Africa est spécialisé dans la communication institutionnelle.
C'est ça.
Pourquoi? Et qu'est-ce que la communication institutionnelle?
Déjà, pourquoi nous sommes spécialisés dans la communication institutionnelle? C'est un choix. Vous savez, il y a, je pense, une soixantaine d'agences de communication en Côte d'Ivoire. Et pour la plupart, elles opèrent sur un modèle full service. C'est-à-dire qu'elles proposent la globalité de services à leurs clients. Donc, communication, produits, donc communication commerciale, communication institutionnelle, événementielle, etc. Nous, dès le départ, nous avons fait le choix d'explorer cette niche-là. De rester que sur la communication institutionnelle. Pourquoi? Parce que je pense que c'était un chaînon manquant, voilà, à l'écosystème, je peux dire, de la communication ici. Ce chaînon était sous-exploité, à mon sens. Quand on parle d'agence, on pense plus à du chocolat, des biscuits, des services de télécom, etc. Mais on oublie souvent que une personne a besoin d'être promue. Une vision a besoin d'être promue. Une marque, dans son ensemble, a besoin d'être promue. C'est une question d'image et autres. Donc, non seulement développer la notoriété, mais aussi bâtir l'image. Et cela est d'autant plus vrai pour les entreprises que pour les personnes. Voilà. Et nous avons fait ce choix-là, de nous concentrer sur cela, sur l'organisation, sur la communication de l'organisation, sur la communication de l'institution, sur la communication de la personne même qui porte l'institution, donc sur la communication des dirigeants, etc. Donc, ce qui fait que voilà, nous travaillons avec des associations, des institutions internationales, en Côte d'Ivoire, à l'étranger, en Afrique de l'Est, en Europe. Voilà, je pense que 70% de notre chiffre d'affaires même se fait à l'international. Voilà, sur ces aspects-là.
D'accord. Et quels sont les succès de votre agence qui a été lancée en février 2015?
Succès, oula, je pense que chaque jour c'est un succès, hein, parce que déjà pouvoir gérer une entreprise, chaque jour, quand on connaît la pression fiscale en Côte d'Ivoire, quand on sait les difficultés qu'on a au niveau des ressources humaines, donc les recrutements, conserver les talents, chaque jour est un succès. Donc, 3 ans, 4 ans, à diriger une start-up, à diriger une PME, pour moi, c'est tous les jours des succès. Maintenant, quels sont des éléments peut-être marquants qui, pour le commun des mortels, peut sembler important? Je peux dire, c'est d'abord la réussite à certains appels d'offres. Voilà, je me rappelle la première fois que nous avons eu notre premier client au niveau de l'Afrique de l'Est, parce que là, nous avons deux clients maintenant en Afrique de l'Est. Je tairai le nom de cette institution, mais c'est une grande institution. Et c'était un appel d'offres. Nous étions en compétition avec des gros bonnets, avec de grands groupes de communication. Et nous avions l'offre la plus intéressante selon ce que nous avons appris. Et pour l'anecdote, même quand nous avons remporté cet appel d'offres, ceux qui avaient organisé l'appel d'offres étaient un peu gênés de dire à leurs clients que c'était notre agence qui l'avait remporté, parce que nous étions face à de grands groupes. Et ça m'a surpris. Nous avons remporté l'appel d'offres un vendredi. Nous avons été informés un vendredi matin que nous avions remporté l'appel d'offres et que nous serons contactés l'après-midi. L'après-midi, nous avons été contactés et l'on me donnait rendez-vous, moi en tant que directeur général, on me donnait rendez-vous le lundi après-midi avec le directeur général de cette institution. Et quand j'ai été surpris, j'ai dit « Ok, ce lundi, ça sera où ?» On m'a dit « Non, à Nairobi. » Et vous voyez, en un week-end, nous qui étions une entreprise un peu nationale, là, nous devions aller maintenant en Afrique de l'Est, représenter et parler au nom de cette institution pour toute l'Afrique francophone. Donc, c'est ce que nous faisons aujourd'hui, depuis quelques années. Nous les accompagnons sur leur communication sur toute l'Afrique francophone. Voilà, pour nous, ça a été un succès. D'abord, c'est un succès quand nous avons réussi à accompagner le groupe Cegid lors de son lancement africain. Abidjan, donc nous avons reçu en Côte d'Ivoire et nous l'avons accompagné, je parle de Jean-Michel Aulas, président directeur général de Cegid à l'époque, qui est aussi le président de l'Olympique Lyonnais, voilà, très connu des Ivoiriens. C'est un succès quand nous avons organisé cet ensemble de conférences et d'audiences, etc. Un autre succès, c'est le roadshow que nous avons organisé au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Burkina et au Sénégal, pour le compte de nos clients. C'était aussi quelque chose d'intéressant. Je pense à ce documentaire que nous avons aussi réalisé sur la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Burkina, le Gabon, le Cameroun, le Congo. Vous voyez ? Donc, comme je le disais, nous faisons une bonne partie de notre chiffre d'affaires à l'international. Donc, en Côte d'Ivoire, c'est peut-être un choix aussi. Nous n'avons pas voulu, dès le départ, nous faire très, très bien connaître de tout le monde. Nous avons voulu avoir un peu plus de force, un peu plus d'envergure avant que l'on entende parler de nous. Et aujourd'hui, je pense que le chemin était difficile, mais nous avons vécu de très belles expériences. Voilà.
D'accord. Pour aller encore dans le sujet de la communication. Donc, ta communication institutionnelle se développe encore plus. Et quelles sont les autres tendances du secteur de la communication en Afrique?
Excellente question. La communication institutionnelle se développe. Oui, elle se développe. Parce que nous voyons la création d'autres agences, voilà, qui sont en train de se mettre en place et qui décident, comme nous, de choisir aussi ce pan, ce secteur. C'est une bonne chose. tout le monde parle de plus en plus de digital, voilà, de numérique, etc., qui annonce, voilà, je peux dire des bouleversements au niveau de la communication. Autrefois, on passait par des médias, par des médiums, on passait par des personnes au milieu, donc des journalistes et autres, pour porter notre parole. Et vous voyez, de plus en plus, l'on peut porter sa parole soi-même, grâce aux réseaux sociaux. Je ne sais pas si c'était l'exemple du président américain, qui lui-même communique directement. Voilà, donc, ce type de communication-là permet aujourd'hui de ne pas voir son message altéré. Donc, de porter et d'assumer alors la pleine responsabilité de ses propos. Donc, cela va requérir, je pense, une certaine expertise dans les mois et les années à venir. On va voir fleurir un ensemble d'experts dans tout ce qui est communication directe. Donc, on voit déjà, au niveau des réseaux sociaux, on va voir un ensemble d'experts apparaître au niveau de la rédaction. Voilà, comment rédiger un message sur des outils en termes de médias sociaux, etc. Et puis, on a vu depuis quelques années apparaître, une autre manière de présenter le message, de présenter son message. Je vais parler du storytelling, donc un autre angle d'approche. Voilà. Et plusieurs se sont engouffrés dans cet angle-là. Donc aujourd'hui, plusieurs parlent de storytelling, etc. Mais je pense que les années qui viennent vont accentuer un peu plus ce phénomène du storytelling. Tout le monde voudra raconter son histoire, partager sa vie et voilà, bien se présenter aux yeux de ses cibles, de ses parties prenantes. Mais il y aura une floraison d'accompagnateurs, donc de coach, de soutien à la prise de parole en public, etc. On part en tout cas vers une communication plus directe. Voilà, je pense que l'avenir sera plus direct. On parlera directement. Où pour mon domaine, donc la communication institutionnelle, les dirigeants parleront directement à leur public. Où les institutions, les organisations parleront directement à leur partie prenante, sans passer par des outils classiques. Voilà.
Et toujours pour rester dans le domaine de la communication, vous-même, vous êtes une start-up, une PME, et la majorité de l'entreprise, c'est les pays africains. Ce sont les PME, mais on constate que très peu font appel à des agences de communication. Selon vous, qu'est-ce qui explique cela et comment on pourrait y remédier? Est-ce qu'il n'y a pas de business model adapté aux PME sur le marché?
Je pense que ce phénomène n'est pas seulement lié aux agences de communication ou autres. Nous sommes dans des marchés ou dans des domaines où les gens sont plus portés généralement sur leur charge. Qu'est-ce que ça leur coûte de faire telle ou telle chose? Et ils ne pensent pas beaucoup à l'investissement. Voilà, donc là on regarde parfois la communication comme une charge, comme une dépense à faire, non pas comme un investissement à faire, parce que la communication non seulement améliore notre notoriété, développe notre renommée, développe notre image, etc., ce qui peut nous faire venir des investisseurs, des clients, des talents, donc des collaborateurs, etc. La communication est un investissement. Donc, tant qu'on percevra la communication comme une charge, comme une dépense, c'est évident que beaucoup de PME, beaucoup de start-up ne voudront pas l'inclure. Parce que je pense qu'au départ, on veut gagner de l'argent, on ne veut pas en dépenser. Et on ignore qu'en communiquant, on peut mieux gagner de l'argent. Voilà. Donc, au lieu de parler de modèle économique, je parlerai plus de prise de conscience. Il faut simplement que les gens comprennent que la communication, c'est un investissement à faire. Et par exemple, vous remarquerez que les footballeurs les mieux connus sont ceux qu'on appelle généralement sélection. Voilà, nationale, vous remarquerez que les politiciens les plus connus sont ceux sont ceux à qui on pense quand il s'agit d'élections. Voilà, pour occuper des postes, les experts les plus connus sont ceux à qui on pense quand il s'agit de faire des nominations. Donc, la notoriété, la renommée et l'image peuvent devancer un succès. Donc, développer sa notoriété, développer sa renommée ou améliorer son image est un investissement qu'on fait pour son avenir. Donc, il faut plutôt qu'on comprenne cela ainsi. Quand on comprend ainsi, on décide alors d'investir dans la communication. Pas de dépenser, d'investir dans la communication.
Est-ce que vous voyez des bons exemples de PME ou de start-up africaines?
Ça serait le fait de la publicité, ça c'est.
C'est juste un partage. Bon, très bien. Et alors, quel conseil donneriez-vous à un entrepreneur qui justement vient de lancer son entreprise, sa marque, ou en termes de communication?
Simple, souvent je dis à mes collaborateurs, pourquoi dois-je acheter tes produits si je ne les connais pas? Pourquoi dois-je te faire confiance si je ne te connais pas? Voilà, je ne te connais pas, je ne te fais pas confiance. Voilà, on fait confiance à ceux qu'on connaît. Pourquoi dois-je investir de l'argent dans ton projet, dans ta start-up, si je ne la connais pas, si je n'entends pas parler, si je ne sais pas ce que tu fais? Voilà, il y a des milliers de personnes qui font des choses extraordinaires dans le monde, mais personne ne les connaît. Voilà. Donc, tant que vous serez ou tant que vous choisirez d'être un inconnu, attendez-vous aussi à ce qu'on ne vous soutienne pas, à ce qu'on ne vous accompagne pas, à ce qu'on ne vous finance pas, à ce qu'on ne veuille même pas travailler chez vous, travailler pour vous. Voilà. Donc, il est important de pouvoir améliorer votre communication pour pouvoir attirer à vous un ensemble de parties prenantes. En l'occurrence, les investisseurs, la banque, les collaborateurs, les clients, etc. Voilà. Aujourd'hui, on ne peut pas ne pas communiquer. Voilà. Dans un monde qui va très vite, où nous avons des millions de choix, nous pouvons aider ceux qui font ces choix-là en se présentant à eux sous notre meilleur jour, en fait.
D'accord, très bien. Donc, pour l'entrepreneur, la communication, ça ne doit pas être comme une dépense, mais comme un investissement.
Exactement.
Et bâtir sa notoriété, c'est un élément clé du succès.
Exactement.
Maintenant, si on revient un peu sur le parcours d'histoire de RCJ West Africa, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées ou que vous rencontrez dans le développement de l'agence principale et comment vous les avez surmontées? Que très généralement, on ne voit que le bon côté et je pense que connaître les difficultés principales et voir comment elle a surmonté, c'est un élément qui devrait aussi pouvoir aider à mieux comprendre l'histoire de l'entreprise et
C'est
ses
légitime.
fondateurs.
C'est légitime. Déjà, trois choses me viennent à l'esprit. La première chose, c'est, je le dis, ce sont les ressources humaines. Voilà, à la différence de peut-être d'autres entrepreneurs qui peut-être vont parler de financement, comment leur projet a été financé, etc. Non, nous, on a développé RCG en allant sur une vieille méthode. C'est-à-dire, nous apportons une réponse à un besoin. Et donc, il y a des clients, il y a des gens qui attendent que nous apportions cette réponse et sont prêts à payer pour cette réponse. Voilà, nous avons eu la chance de commencer avec des gens qui souhaitaient payer les réponses que nous apportions. Donc, nous n'avons pas manqué de marché dès le départ. Voilà. Je me souviens d'une époque même où nous étions tellement sollicités que nous ne savions pas quoi faire. Voilà. C'est peut-être cette époque-là qui a attiré mon attention sur la difficulté dont je parle, les ressources humaines. Donc il fut un temps où on avait vraiment besoin de recruter, où on avait besoin de collaborateurs, etc. Et je vous assure, pour une start-up, souvent on n'y pense pas, mais pouvoir recruter des personnes, des talents, des gens, comme on dit, bons, efficaces, qui acceptent de prendre le risque de travailler dans une petite entreprise et de l'avoir grandi ensuite, il n'y en a pas beaucoup. Voilà.
La difficulté, c'est pas de trouver des personnes qualifiées, mais c'est de trouver des personnes
Trouver des personnes qualifiées qui
acceptent de
veulent.
participer à l'entreprise.
Exactement. Donc, trouver dès le début des personnes qualifiées qui acceptent de participer à l'aventure. Ça a été la première difficulté. Parce que nous avions un marché, nous avions des demandes, nous avions, je peux dire même des clients, parce que nous avions des contrats et autres. Mais nous n'avions pas toujours les bonnes personnes. Donc, je peux dire qualifiés comme pas qualifiés. Mais nous n'avions pas forcément les bonnes personnes. Quand je dis bonnes personnes, il peut arriver qu'elles fussent qualifiées, mais pas engagées. Ça veut dire que pendant longtemps, et je pense que beaucoup d'amis entrepreneurs me comprendront, pendant longtemps, c'est le dirigeant qui porte son projet, qui porte son entreprise. Parce que ceux qui ont l'expertise et autres trouvent le projet parfois petit, ne se disant pas que les petites choses grandissent. Voilà, souvent on oublie ça, on oublie que les petites choses grandissent. Et que toutes les grosses entreprises, Google, Apple, etc., Amazon, ont commencé souvent petites. Donc ces personnes préfèrent travailler déjà dans de grandes entreprises et autres. Voilà, donc parfois la start-up se retrouve avec du personnel, voilà, pas forcément comme il aurait souhaité. Ça, j'avoue que quand j'en discute avec mes amis entrepreneurs, c'est un des points sur lesquels nous accrochons, les ressources humaines. Après les ressources humaines, la pression fiscale. Franchement, on ne se rend pas compte de combien de fois c'est difficile, parfois, pour des entrepreneurs de devoir subir la pression des impôts, la CNPS, des charges, etc., etc. Nous, dès le départ, nous avons fait le choix d'être réglo dans chacune des choses. Mais je vous assure que mal nous en prend parfois. Parce que faut saluer le courage de ceux qui prennent. Vous imaginez, vous pouvez faire 2 ans, 3 ans sans dividende. Tout votre argent part au niveau des charges sociales, des impôts, des choses, etc. Et cela provoque beaucoup de frustration. Beaucoup de frustration de voir. Et comme souvent aussi, quand on commence, on ne se fait pas bien accompagner. Il y a un ensemble d'erreurs qu'on commet, que ce soit au niveau de la forme juridique, qui a des conséquences sur la fiscalité, que ce soit au niveau de la tenue de la comptabilité, au niveau de la conservation des pièces comptables, au niveau de la gestion même. Voilà. Donc, peut-être en soumettant ce problème-là, l'une des solutions que je peux proposer, c'est de se faire accompagner. Ce que nous avons compris, aujourd'hui, nous faisons accompagner par un cabinet d'experts comptables. Voilà, nous faisons accompagner par un cabinet d'experts comptables. Nous faisons accompagner par un ensemble de consultants en fiscalité et en droit des affaires. Voilà. Mais nous avons senti voilà, cette pression.
La pression fiscale.
Ouais.
Et
l'absence d'aide, de soutien. Voilà. Les banques n'aident pas. Faut pas. En Côte d'Ivoire, faut pas compter sur les banques. C'est vraiment dommage, je le dis. Je parlais récemment encore avec un banquier qui souhaite que nous ouvrions un compte dans leur livre. Qui me demandait avez-vous déjà pris des crédits, tout ça. Je lui ai dit non. Non, ce n'est pas l'envie qui nous a manqué, mais la procédure souvent est tellement compliquée. Et je sais que les quelques fois où j'ai eu vraiment besoin du soutien de la banque ne m'a pas soutenu. Voilà, des fois c'était souvent pour des tensions de trésorerie. C'est la réalité, le quotidien des entrepreneurs. Il y a eu des tensions de trésorerie, et on a eu souvent besoin d'avance sur, dans, comme on dit, des escomptes. Voilà, sur des commandes et autres. Parfois même, on avait des remises chèques qui avaient été faites. Et il fallait juste attendre quelques jours. Donc, demander juste un acompte en attendant que la remise chèque passe dans le... Non, les banques ne soutiennent pas. C'est vraiment décevant. Quand on voit ce qui se passe ailleurs, hein, voilà, nous avons la chance d'avoir une entreprise aussi en France. Et... on voit que ton banquier t'appelle, te demande si tu as besoin d'aide, de soutien, il te présente un ensemble de solutions qu'ils peuvent t'apporter. En Côte d'Ivoire, ce n'est pas le cas. Donc ici, très souvent, les entrepreneurs réussissent par la force de leur poignet. Ils réussissent de même. Ils se battent chaque jour sur leur fond propre. Ils privent leurs femmes et leurs enfants de moyens et ils prennent pour nourrir leur projet, leur entreprise. Il m'est arrivé plusieurs fois de financer, de refinancer, de financer encore à nouveau mon entreprise en privant les miens de biens. Voilà. Donc, ça, c'est la réalité. Voilà.
Donc, sur ta culture, les ressources humaines,
la pression, ouais.
Et les problèmes financiers.
Ouais, des banques.
Okay. Mm-hmm. Et comment vous menez l'essor de l'agence?
Comment
vous menez l'essor de l'agence? Comment vous développez l'agence?
En tenant compte des trois réalités que j'ai citées plus haut, les ressources humaines, la pression fiscale et le manque de soutien des banques. L'entrepreneur aujourd'hui, donc nous par exemple, sommes obligés de travailler avec les moyens de bord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire développer un système de gestion particulier en bâtissant des relations fortes avec nos clients, avec nos fournisseurs et avec aussi nos équipes. Voilà. Donc, je pense que la relation devient alors une sorte de clé, voilà, pour résoudre cet ensemble de difficultés. Voilà. À côté de ça, à côté de la relation, je pense qu'il y a la transparence. Voilà, nous essayons d'être transparents avec chacune des parties prenantes que nous côtoyons sur notre ambition, sur l'ensemble des solutions que nous pouvons leur apporter. Et ça marche. Voilà, ça marche. La transparence vient renforcer, en fait, la relation. Voilà, je pense que quand on est transparent avec ses clients, ils vous font davantage confiance, ils vous comprennent, ils vous aident, ils vous soutiennent, ils peuvent souvent déroger à leurs procédures pour vous accompagner. Pareil pour les fournisseurs qui vous comprennent, vous soutiennent et s'engagent aussi dans votre vision, ainsi que nos collaborateurs avec qui nous travaillons en toute transparence, voilà, qui nous comprennent, qui s'engagent à nos côtés et qui participent au développement du projet afin aussi en son temps de bénéficier des fruits de ce projet-là. Voilà.
Quels sont vos rêves de croissance?
Nos rêves, nous sommes en train de les réaliser depuis peu. Quand nous avons lancé cette agence, dès le départ, nous avons présenté notre ambition. Nous avons dit RCG West Africa. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire était petite pour nous. Nous ne souhaitions pas rester dans un carcan national, mais nous ambitionnions d'être présents dans la région ouest africaine. Donc, avec le temps, nous avons essayé de réaliser cela. Nous avons, il y a 2 ans, ouvert le bureau du Sénégal, qui fonctionne très bien, qui accompagne des institutions, des associations et quelques personnalités là-bas. Nous avons une équipe très dynamique, très engagée, composée de Sénégalais et, je crois, d'une seule Ivoirienne, hein, voilà, d'une seule Ivoirienne qui est partie d'ici. Voilà, nous avons recruté sur place, nous avons créé l'entreprise sur place et nous avons démarché sur place. Et récemment, nous avons pu signer un partenariat avec VR2 Media afin d'offrir un nouveau service de veille média aux entreprises sénégalaises. Donc, ce partenariat suit son petit bonhomme de chemin. Et je tiens là, en profitant de votre interview, à remercier VR2 Media dirigé par Fabrice Pioffre pour la confiance placée en nous et pour la collaboration fructueuse qui se produit en ce moment. Après, nous avons ouvert il y a quelques mois le bureau du Togo. Voilà pourquoi, pour nous, le Togo est une zone stratégique. Le Togo compte le siège de plusieurs grands groupes, Ecobank, Cascaille, etc. Donc, nous avons décidé de nous positionner là-bas pour pouvoir leur proposer un ensemble de services. Nous avions déjà des clients voilà, au Togo que nous accompagnons depuis la Côte d'Ivoire. Donc, il a été question pour nous de nous rapprocher un peu plus de ces clients. Cette année, je crois que et ces deux entreprises, à la différence des prochaines qui arrivent, l'entreprise du Sénégal, à la différence du Togo, a été totalement créée par RCG. Voilà, c'était une filiale. Alors que le Togo, ça a été à l'initiative de locaux qui ont souhaité représenter notre entreprise. Donc, c'est dans ce type d'expansion que nous sommes en train de nous porter maintenant. Ça veut dire que nous venons dans un pays à l'invitation de locaux, une sorte de franchise en fait, qui souhaite bénéficier de notre marque et de notre méthode de travail. Donc, je pense que les prochains challenges, ça sera le Burkina et le Mali. Voilà.
D'accord, très bien. Et donc, vous pensez que le marché ouest-africain est assez grand pour avoir une agence spécialisée dans l'institutionnel?
Notre ambition, c'est d'être la première agence de communication institutionnelle en Afrique francophone. Voilà, c'est notre ambition et je pense que nous sommes très bien partis pour cela. Et oui, le marché, j'ai dit, tant qu'il y aura des hommes, des associations, des institutions, des entreprises, il y aura un besoin de communication institutionnelle. Et chaque fois qu'il y aura ce besoin de communication institutionnelle, RCG West Africa sera là pour apporter des réponses. Donc oui, ce marché est visible par notre sens et nous travaillons à le développer davantage.
Quelles sont les clés qu'une agence de communication doit avoir? Quels sont les fondamentaux, les bases pour le succès d'une agence de communication?
Ouh, je serais prétentieux de dire que je les ai. Je veux m'incliner devant des aînés qui nous ont devancés ici. Hein. Je veux saluer Fabrice Aouignon, voilà, le président du groupe Vaudou. Madame Martine, ouais. Kofi Studer, voilà, Dossier Angelvi, et tous ces aînés-là, voilà. Je n'ai pas les clés, je les cherche encore. Et je pense que c'est en les imitant. Pourquoi j'ai cité ceci? J'ai cité d'abord Fabrice Aouignon, parce que c'est jeune comme nous, voilà, qu'il a pris le risque de créer son agence, et aujourd'hui, je pense que son agence pèse ce qu'elle pèse dans la communication en Afrique. Voilà, il faut pouvoir lui reconnaître ce mérite-là et lui tirer son notre chapeau. Je veux aussi féliciter Madame Martine Kofi Studer, parce qu'elle a, je pense, été l'une des premières à créer un réseau local d'agences de communication. Voilà, et c'est un mérite. Moi, aujourd'hui, aux commandes d'RCG, je comprends les sacrifices qu'ils ont dû faire, je comprends voilà ce qu'ils ont dû endurer. Et s'il faut aller chercher des clés, personnellement et humblement, je souhaite qu'on aille vers ces personnes-là. Moi, je cherche encore des clés. Donc peut-être, si on se donne rendez-vous dans 5 ans, je pourrais vous donner quelques clés.
D'accord, très bien, merci. Et maintenant, pour terminer, nous voulons mieux vous connaître. Donc on voudrait savoir quels sont les livres qui vous ont marqué en 2018.
Wow.
Maximum 5.
Ça, c'est une très belle question. OK. Quels sont les livres qui m'ont marqué en 2018? OK. Je vais tricher. Je vais juste prendre mon attaché case. Voilà. Je vais juste... J'espère qu'il est là. Sinon, je voudrais laisser juste mon chevet. Ah non. Ok, je vais citer L'Homme Nu, voilà, pardonnez-moi de ne pas donner l'auteur, je l'ai oublié peut-être, L'Homme Nu que je suis en train de lire en ce moment, qui parle de ce que, des entraves, des dérives en fait, liées à cette grande digitalisation de notre monde. Donc C'est un livre qui parle de données, de vente de données, de GAFA, donc Google, Amazon et autres, et de l'usage qui est fait des données qui sont récoltées sur chacun d'entre nous. Voilà, via les différents outils que nous utilisons, smartphone, téléphone, internet, donc ordinateur portable, smart TV, etc. À côté de ça, je lis une biographie sur Elon Musk. Voilà. Elon Musk est un entrepreneur un peu fou. Après avoir créé PayPal, il s'est lancé dans Tesla,
SpaceX,
etc. Et pour nous, c'est inspirant de pouvoir lire de telles histoires. Voilà. Je peux citer aussi la biographie de Steve Jobs. Je suis en train de lire, là je l'ai à la maison. La biographie de Steve Jobs aussi. Très souvent, on ne voit que l'icône. On ne voit que l'entrepreneur. Voilà, je pense qu'on subit tous la même chose. Mais derrière les icônes, il y a des groupes, il y a des équipes. Et très souvent, on oublie cela. Et en lisant cette histoire, en lisant l'histoire de Steve Jobs, on se rend compte qu'il n'était pas seul. Il y avait des gens avec lui, il avait une famille, il avait des équipes, etc. Et pour nous, entrepreneurs, c'est très important. Voilà. Je lis chaque jour la biographie. Je continue de lire la biographie du président Félix Faite-Boigny, écrite par Frédéric Ramel. Félix Faite-Boigny a l'épreuve du pouvoir. Ce livre me marque énormément. Pourquoi ? Parce que c'est une biographie qui commence à l'occasion de l'indépendance jusqu'au décès du président Faite-Boigny. Donc, il n'y avait pas eu de président avant lui. Donc, il ne pouvait pas s'inspirer d'une personne ayant dirigé la Côte d'Ivoire. Donc, il a dû apprendre à présider cette nouvelle nation. Donc, au travers de ce livre, on voit ses méthodes. On découvre comment est-ce qu'il a résolu les conflits, les situations. Voilà, on parle du miracle ivoirien. Ensuite, on parle de la crise. Mais je lis ça pas pour des raisons politiques, mais pour des raisons managériales. Je veux voir comment le manager qui était au Faite-Boigny fonctionnait. Et ce livre, franchement, me touche énormément. Et à côté de ça, je lis aussi les mémoires d'Abdou Diouf, qui est le second président sénégalais, qui a une très belle histoire aussi. Voilà, il a succédé à un monument qui était Senghor. Et ce livre nous apprend comment diriger dans les pas de grands hommes. C'est-à-dire comment remplacer de grands hommes, comment remplacer des grands. Et ce livre m'a vraiment touché. Je pense que ça fait 5. Sinon, à côté de ça, je lis les poèmes de Senghor.
Voilà.
J'aime bien. Voilà, j'aime.
Beaucoup de biographies, de personnalités, je dirais, de notre époque. Mm-hmm. Et en plus de ces livres, quelles sont les personnalités, je dirais, qui ont marqué l'année 2018 pour vous? Les personnalités africaines.
Les personnalités africaines. Waouh, ça serait fait. Je travaille dans le domaine de l'institutionnel. Parler de certaines personnalités peut me mettre mal, je peux dire. Non, j'en connais, mais je veux les garder pour moi. Si vous me permettez. Parce qu'en réalité, mon métier, c'est de faire parler de personnalité. Vous voyez, bon, je peux faire. Voilà.
Ça, c'est mes questions qui me distinguent, moi.
Ah bon? Ok. Oula, les personnalités.
Donne des personnalités dans le monde.
Des personnalités dans le monde.
Quelles sont les personnalités qui ont marqué l'actualité mondiale en 2018? On va laisser les personnalités africaines juste pour vous, cette fois.
Je pense que s'il y a une personnalité. Je vais citer Donald Trump. Il est en train de casser les codes. Il casse les codes, il change. la façon de faire à beaucoup de niveaux. Voilà, c'est une personnalité sulfureuse. Tout le monde ne la comprend pas, mais bon. Marqué dans ce sens que c'est l'une des personnes les plus visibles. Voilà. Sinon, je ne saurais répondre à cette question.
Bon, on regarde déjà qu'en 2018, au moins Donald Trump.
Ouais, je le dis parce que c'est. Parce qu'il a cassé des codes. Autrefois, on utilisait des porte-paroles, des choses comme ça. Lui, il parle directement. Voilà, il parle directement.
Donc, c'est le point de vue du communicant.
Oui, c'est juste là. Il m'a marqué sur sa manière de communiquer. Voici quelqu'un que perçu qui personne ne pariait. Voilà. Qui, avec ses propres méthodes, est arrivé là où il est aujourd'hui. C'est une leçon qu'il donne à tout le monde. Et c'est une alerte en quelque sorte. Il fait comprendre aux gens que les choses changent. Et il faut en tenir compte.
Donc, voilà. Donald Trump, c'est un puissant catalyseur de changement.
Non, je ne saurais le dire parce que le terme catalyseur, encore faudra l'expliquer.
Acteur de changement.
C'est trop dit.
Il change les codes.
Il a changé les choses. Il a changé. 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 Je veux pas. J'ai beaucoup de personnalité, mais je... voilà. Pour des questions professionnelles, autres, je veux pas. Voilà.
Ben, merci beaucoup. Donc, merci de nous avoir reçus et pour cet échange qui était très enrichissant.
Merci.
Et donc, plein de succès à RCG West Africa pour l'année 2019 et l'année à venir.
Merci beaucoup, Axel. Merci.